Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, WandaVision, la première série tirée de l'univers Marvel. Et puis, on va rester au chapitre des super-héros, mais en BD cette fois, avec deux super-héroïnes. Nos super-héroïnes à nous, Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Et avant cela, Eva Rock pour son zapping du lendemain. Nos super-héros, Bertrand Chamerois, aux alentours de 10h. Et dans quelques instants, il est en train de retirer sa cape, Charles Decan, pour son journal des médias. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr et au passage, vous pouvez vous abonner à la newsletter de l'émission, c'est gratuit. Notre infomédia va revenir sur le dossier le plus chaud et le plus coûteux de la télévision, les droits du foot. On parle d'1 milliard d'euros, on parle de Canal+, de Mediapro et des GAFA. On en parle pour la première fois avec un président de club. C'est lui qui reçoit, ou plutôt qui ne reçoit plus l'argent promis, Jean-Pierre Caillot du Stade de Reims. Et puis nos invités, comme s'il n'y avait pas déjà assez de conflits dans cette région du monde, voici que l'émission Les Grandes Gueules a désormais une déclinaison au Moyen-Orient sur la chaîne israélienne d'info continue I24 News. Nous serons avec son présentateur Benjamin Petrovert en duplex de Tel Aviv. Enfin, le journaliste et écrivain Eric Fotorino pour un roman autour de la star déjantée de l'art contemporain, la Serbe Marina Abramović, qui invente depuis 40 ans des performances qui explorent les limites du masochisme et de l'exhibitionnisme et qui fascinent notamment Lady Gaga. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Sans votre cape, votre journal des médias, c'est maintenant le sommaire du jour.
Une info Europe 1, l'équipe veut sortir de la crise, les fake news s'effondrent et la disparition de Phil Spector.
Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end qu'ont les Français regardé hier soir à la télé.
Et bien une fois n'est pas coutume, France 2 pointe en première position un dimanche soir avec 3 600 000 téléspectateurs pour le film français inédit L'Empereur de Paris, c'est 16,1% du public. TF1 est deuxième avec le film américain inédit cette fois, John Wick 2 avec Keanu Reeves, 3 400 000 téléspectateurs au compteur, c'est 15,7% du public seulement, mais 24% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et M6 est troisième avec un nouveau numéro du magazine Capital, suivi par 2 800 000 personnes, soit 12,8% du public et un joli 20% des FRDA.
Et samedi soir
C'est France 3 qui s'est imposé avec 5 300 000 téléspectateurs pour une rediffusion du téléfilm La Malédiction du Volcan, soit 22,8% du public. Et surtout, c'est 1 700 000 personnes de plus que lors de sa première diffusion il y a un an et demi.
C'est une bénédiction.
TF1 est deuxième avec Ninja Warrior, stable sur une semaine à 3 800 000 personnes et 16,4% de part d'audience. Le jeu est en légère baisse, mais toujours largement leader sur les FRDA, donc à 29% de part d'audience. Et troisième, France 2, 2 100 000 téléspectateurs pour La Lettre présentée par Sophie Davant, c'est 10,1% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias par une info Europe 1.
Et oui, en 2021, Scène de ménage va accueillir un nouveau couple. C'est ce qu'a révélé le producteur de la série Alain Capoff lors de l'enregistrement d'un nouveau numéro du podcast Sériland animé par Eva Rock. Il lui a expliqué pourquoi ce choix avait été fait.
C'est l'extension naturelle de ce qui a été posé au départ, c'est-à-dire avec un ADN assez restreint sur 3 générations. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les générations sont un peu étendues. Et en même temps que les générations, la photographie de la société française. Donc c'est ça en fait, on veut compléter la représentation des sociotypes quelque part.
Il y aura donc prochainement 6 couples dans la série d'M6. Alain Capoff a confirmé que ce nouveau binôme n'en remplacerait pas un autre. Pour l'instant, on ignore tout du profil de ce nouveau couple, mais pas sûr qu'M6 profite de l'occasion pour mettre en avant un couple homosexuel ou pour mieux représenter la diversité ou le handicap.
On ne veut pas être prisonnier de ça non plus. C'est-à-dire, nous, le propos de départ, et on ne veut pas déroger à ça.
Après, c'est la scène de ménage.
C'est conflit dans le couple. Et tournant dans la vie, quelque part. Donc ça, c'est vraiment le nucléus, c'est vraiment le ressort de la série.
Alain Capoff dans Sériland, le podcast d'Eva Rock, disponible sur europe1.fr et toutes les plateformes de podcast.
Se dirige-t-on vers une sortie de crise au quotidien sportif L'Équipe?
La direction doit faire de nouvelles propositions cet après-midi pour tenter de mettre fin à la grève qui paralyse le journal depuis 10 jours. Le plan social proposé pourrait être retiré au profit d'un accord de performance collective. C'est déjà ce qui avait été proposé au mois de juin dernier, mais les sacrifices demandés aux salariés pourraient être moindres. De leur côté, les syndicats ont demandé que le plan social soit remplacé par un plan de départ volontaire et que les conditions de ces départs soient améliorées.
Et ces avancées potentielles interviennent alors que 200 sportifs ont fait part de leur soutien au quotidien ce week-end.
Oui, Tony Parker, Florent Manaudou, Kevin Mayer ou encore Marie-Josée Pérec, ils ont tous signé une lettre ouverte où ils disent leur attachement à l'équipe.
Le groupe Canal+ prépare deux nouveaux rendez-vous littéraires.
Un pour C8 ou CNews et l'autre pour la chaîne Canal+. C'est ce qu'a annoncé ce week-end le JDD. Pour l'heure, on sait que le premier sera animé par la journaliste politique Anne Fulda. Le deuxième sera bimensuel et c'est Cyril Eldin qui sera aux commandes. De quoi compenser l'arrêt de 21 cm d'Augustin Trapenard qui a quitté le groupe et de vivre les livres de Patrick Poivre d'Arvor sur CNews auxquels le groupe a mis fin il y a 10 jours.
Daphné Burki, bientôt de retour sur France 2.
L'animatrice a décroché l'animation d'un prime caritatif, a révélé ce week-end le Parisien. Il devrait s'intituler Secours Pop, la grande soirée, et profitera, comme son nom l'indique, au Secours Populaire. Sur la scène du Cirque d'Hiver, l'animatrice sera aux commandes d'un show où se succéderont une quarantaine d'artistes et de chanteurs.
Excellent titre, Secours Pop. Une série de France O va débarquer sur France 3, générique.
Laisse-moi plonger dans l'océan.
Elle s'appelle OPJ Pacifique Sud et c'est sa saison 2 qui est actuellement en cours de tournage, qui sera prochainement proposée sur France 3 selon le Parisien. OPJ aura même les honneurs du Prime pour une soirée avec deux épisodes spéciaux. Un joli coup de projecteur pour cette série policière. La saison 1 avait été diffusée en quotidienne sur France O, pardon, la chaîne de l'Outre-mer qui a fermé définitivement en septembre dernier.
Une bonne nouvelle, la quantité de fake news s'est effondrée la semaine dernière aux États-Unis.
L'éviction de Donald Trump de Twitter et de Facebook notamment a eu un effet majeur sur la propagation de fausses informations qui circulent au sujet de l'élection présidentielle américaine. Selon le Washington Post, le nombre de messages évoquant une élection truquée a chuté de 70%, passant de 2,5 millions à un peu moins de 700 000. Une dégringolade qui s'explique aussi par la suppression par Twitter de 70 000 comptes complotistes.
Et puis on termine ce journal avec la disparition ce week-end de Phil Spector, l'un des premiers grands producteurs de musique.
Il avait 81 ans, il s'est éteint dans un hôpital de Californie. Selon le site People TMZ, Phil Spector avait été hospitalisé après avoir contracté le Covid. Phil Spector, c'était le producteur emblématique des années 60. Il a enchaîné les tubes, il a imposé un son qu'on a appelé le Wall of Sound avec beaucoup d'instruments et de choristes. Un son qui a influencé de nombreux artistes, des Beach Boys à Bruce Springsteen. C'est lui qui est derrière notamment le succès du groupe The Crystals et leur titre notamment Dadoo Run Run en 1963. Mais à cette époque, le succès de Phil Spector faiblit jusqu'à ce que les Beatles fassent appel à lui au début des années 70 pour leur album Let It Be. Le travail du producteur est assez critiqué, faut le dire, mais le succès est au rendez-vous et sa carrière repart de plus belle, notamment grâce à sa collaboration sur l'album Imagine de John Lennon. Mais les excès du producteur commencent à lui faire de l'ombre. Ses compagnes et ex-compagnes et les artistes avec lesquels il a travaillé évoquent sa violence, ses menaces, si bien qu'à la fin des années 70, sa production musicale diminue drastiquement. En 2003, il se retrouve à nouveau en une de tous les journaux, mais pas pour sa musique. Une jeune femme meurt chez lui. Il parle d'un suicide accidentel, mais sera condamné pour meurtre en 2009 à 19 ans de prison. Émilie Mazoyer reviendra sur sa carrière dans son émission Musique ce soir dès 20h sur Europe 1.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain.
À demain
pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour a parlé du risque d'écran noir pour les matchs du championnat de France de football. Semaine critique pour le dossier des droits de diffusion. Analyse de la situation avec un homme de terrain, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. C'est lui également qui représente les clubs de Ligue 1. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
On va parler de football et des centaines de millions d'euros que la télévision lui apporte. Il y a un mois, tout le monde s'attendait à voir Canal+ reprendre rapidement les droits du foot français, ceux que Mediapro ne pouvait plus payer. Mais il y a une semaine, coup de théâtre, la chaîne cryptée annonçait qu'elle voulait faire un appel d'offres en bonne et due forme et qu'elle rendait ses parts des droits. Elle diffuse 2 matchs sur les 10 chaque week-end. Un revirement qui fait peser la menace d'un écran noir sur le foot français dès la fin du mois. La Ligue de football professionnel, la LFP, et les clubs s'enfoncent donc encore un peu davantage dans la crise. Crise financière, crise sportive et également crise d'image. Mais ils gardent espoir et tentent de trouver une solution, ce qui est loin d'être évident. En ligne avec nous, Jean-Pierre Caillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du collège de la Ligue 1 au sein de la Ligue. C'est vous qui êtes le principal représentant des clubs, leur porte-parole. Vous présidez par ailleurs l'un de ces clubs, le Stade de Reims. Comment vous allez ce matin? Je dis ça parce que Reims a perdu à Lille hier 2-1.
À la 93e minute, donc effectivement, Non seulement quand on est président d'un club de foot comme le mien, on a le stress du résultat sportif, mais comme vous l'avez évoqué, on a en plus maintenant un stress financier énorme au-dessus de nos têtes. Donc, je vais, heureusement que je suis naturellement optimiste.
On va parler du stress financier seulement aujourd'hui, président. Actuellement, les matchs de Ligue 1 sont diffusés par Canal et par Téléfoot, la chaîne créée par Mediapro. Téléfoot doit s'arrêter à la fin du mois, le 31 janvier. Canal+ ne veut plus diffuser de matchs à partir du 5 février. Dans ce contexte, quelle est l'urgence pour la Ligue ?
Bah écoutez, au moment où on se parle, on sait qu'on a à peu près 40% de nos droits télé qui sont sécurisés par les annonceurs qui, eux, respectent leurs règlements. Donc, aujourd'hui, quand Canal+ fait les déclarations qu'il a faites la semaine dernière en souhaitant rendre ses droits, je peux vous dire que juridiquement, on regarde comment cela serait possible. Je ne comprends pas personnellement, enfin la plupart de mes collègues ne comprennent pas pourquoi Canal+ prendrait cette position. Alors, semble-t-il, ils souhaiteraient qu'un nouvel appel d'offres soit mis en place et ensuite, s'il était infructueux, passer au gré à gré. Donc, toutes ces négociations sont menées par le président de la Ligue, Vincent Labrune. C'est donc lui qui a plus les clés que moi sur ce dossier. Moi, je ne suis qu'un président de club, comme mes collègues. Et nous, on voit qu'on est des organisateurs de spectacles sans spectateurs et sans recettes.
On va parler de Canal+, évidemment, et de son attitude dans la deuxième partie de cet entretien. Alors, il y a plusieurs options pour que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 soient diffusés jusqu'à la fin de la saison. On va les passer en revue avec vous, Jean-Pierre Caillot. Il y en a trois. La première, trois groupes proposent de les diffuser gratuitement en clair. Il s'agit de TF1, France Télévisions et M6. Ils se sont proposés vendredi dernier. Vous en pensez quoi ?
Ça prouve en tout cas que le produit est premium et intéresse. Donc, je sais que certains sports paient pour être diffusés. Donc, nous, c'était le contraire ces derniers temps. Mais oui, bref, je pense qu'ils sont assez opportunistes dans la démarche. Mais au moins, ça a le mérite d'être.
Mais là, ce serait gratuit.
D'être une solution, mais je répète, quand vous êtes organisateur de spectacle, si vous n'avez pas de recettes, le système ne peut pas durer longtemps.
Autre option, que la Ligue rachète pour 1 euro symbolique la chaîne Téléfoot. Là, est-ce que c'est réaliste ?
Pas vraiment. On avait fait, il y a quelques années, la Ligue avait fait une chaîne, notamment pour les droits de la Ligue 2, qui s'appelait CFoot. Je ne suis pas sûr que ça soit le business plan des clubs de football de faire leur propre télé. Ça serait vraiment une situation si justement on était face à des écrans noirs. Or, vous l'avez dit dans la première hypothèse, il y a déjà des gens qui se proposent pour retransmettre les matchs. Donc ce ne serait pas une bonne solution.
Alors, troisième et dernière proposition, que la Ligue mette en place un service OTT, en anglais over the top, une sorte de Netflix du foot. C'est ce que proposait Jean-Michel Aulas, votre collègue président de l'Olympique Lyonnais, en octobre dernier. Je cite le président Aulas, « Il faut une offre unique avec un prix attractif et que le public n'ait plus à se poser la question sur quelle chaîne est le match. » C'est ce qu'il disait aux Parisiens. Concrètement, à chaque journée, 20 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour un prix relativement bas. Est-ce que c'est une piste sérieuse, réaliste selon vous ?
Ça peut être une solution. Vous savez, on est aujourd'hui dans un tel contexte que toutes les pistes sont à creuser. Et je pense qu'il y a une quatrième piste que vous n'évoquez pas aujourd'hui, mais qui est le jeu de la négociation que fait le diffuseur historique de la Ligue 1 et la quatrième.
Avec Canal+, on va en parler après. Mais là, je commençais par dégrossir le terrain. Est-ce que les trois premières options sont envisageables ou non réalistes selon vous ? Parce qu'évidemment, ça demande du temps, des investissements. Il ne suffit pas de diffuser les matchs, il faut les produire, les filmer. Donc, c'est-à-dire payer les caméras, les cadreurs, un réalisateur, des commentateurs.
Ben voilà, donc c'est un élément de réponse. On est en train d'expliquer qu'on est en crise, qu'on regarde sur tous les postes de charge, c'est pas pour en créer des nouvelles.
Ouais. Est-ce que pour réduire les coûts, pardon de cette question iconoclaste, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à diffuser des matchs sans commentaires ou alors avec moins de caméras ?
Bon, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ce type de produit. Je répète, le football de tout temps a été un produit premium pour la télévision. La question de faire marche arrière techniquement par rapport à la qualité des matchs qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. C'est déjà pas simple de diffuser des matchs sans spectateurs. Enfin, moi, quand je regarde des matchs en tant que téléspectateur et que je vois ces tribunes vides, c'est déjà tellement d'un triste. Alors, si en plus on mettait pas de commentaires, pour le coup, ça va être.
Et en plus sans le son. Sans le son, au moins. Parfois, il y avait des, pour la Champions League, il y avait des faux sons d'ambiance. C'était peut-être faux, mais ça mettait un peu d'ambiance. À chaque appel d'offres, je vous apprends rien, ces dernières années, il y a le nom des grandes entreprises qui revient de plus en plus, les GAFA, exemple Google, exemple Amazon, exemple Facebook. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient venir vous aider jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'elles ont pris contact avec la Ligue?
Alors, vous savez que le principe des appels d'offres du football se fait par lot. Il y a différentes catégories de matchs à acheter. Donc, je n'imagine pas, et encore une fois, j'en ai ni la compétence, ni l'information, je n'imagine pas Amazon acheter tous les lots comme l'avait fait comme Mediapro, où on achetait beaucoup. Par contre, pourquoi pas, vous savez, il y a Free aussi qui est un dernier appel d'offres. Donc, il y a toujours, aujourd'hui, il y a de nouveaux diffuseurs, il y a de nouveaux entrants. C'est l'intérêt des appels d'offres, c'est toujours de découvrir de nouvelles possibilités. Donc, je sais qu'il y a des relations qui sont ouvertes. Je suis pas sûr que Amazon aujourd'hui soit dans les budgets que nous souhaitons, mais il peut être un des intervenants.
Alors, on a balayé 3 plus 2, 5 possibilités. Est-ce que si rien ne fonctionne, il y aura un écran noir? Vous disiez le mois dernier, je vous cite, pardon, si on doit faire écran noir, on le fera. Vous dites la même chose à nouveau aujourd'hui?
C'est la situation jusque boutiste. Effectivement, moi, je pense qu'on aura une réunion si les choses n'évoluent pas. Mais encore une fois, je suis assez optimiste sur des évolutions. On aurait une réunion entre présidents à savoir s'il vaut mieux être diffusé gratuitement et maintenir notre produit ou si à un moment, il faut se servir de l'écran noir pour faire pression pour qu'un diffuseur prenne conscience qu'aujourd'hui, on se heurte à une situation assez particulière qui donne des arguments aux diffuseurs traditionnels. C'est que la crise étant, bizarrement, il n'y a pas de désengagement des abonnés. Donc aujourd'hui, Canal sous-entend que le football ne lui a pas enlevé des abonnés. Nous, on pense que si la situation durait, Canal, à un moment, perdrait des abonnés. Moi, le premier, qui suis toujours abonné à Canal, même si je ne peux pas y voir les matchs de foot.
Alors justement, le cas de Canal+, on va le traiter dans la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Caillot, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de l'avenir en pointillé du football sur les écrans de télévision. Nous sommes avec Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et président du Collège Ligue 1 au sein de la LFP, la Ligue de Football Professionnel. On va parler évidemment de Canal+, l'un des principaux acteurs, sinon le principal acteur désormais. Dans quel état d'esprit, président, êtes-vous avec eux, compte tenu de ce qui s'est passé?
Écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a eu un peu de tension entre la Ligue de football et les dirigeants de l'époque et Canal+, évidemment, qui avait vu d'un mauvais œil le fait que, au dernier appel d'offres, Mediapro leur souffle une paire de l'eau. Et depuis quelques mois, et notamment depuis le changement de gouvernance, les relations sont on ne peut plus, j'allais dire, amicales avec les dirigeants de Canal+, et les dirigeants de la Ligue. Mais ceci étant, on est face à une négociation et donc il y a le jeu de la négociation d'une part, chacun estimant, essayant de défendre ses intérêts. Donc on a des bonnes relations, on se parle. Donc moi je trouve que c'est essentiel. Vous savez, tous les conflits se règlent toujours à partir du moment où un dialogue existe, et c'est le cas aujourd'hui. Oui. Bon, et comme dans toutes les négociations, ça souffle le chaud et le froid actuellement. On a pris un coup de froid en fin de semaine, donc j'espère que cette semaine nous ramènera du chaud.
Oui, parce que je rappelle, Canal+ avait pris ombrage de la décision de la Ligue, c'était en 2018, et là, ce que vous nommez le changement de gouvernance, c'est l'arrivée de Vincent Labrune à la direction, à la présidence de la LFP, c'était en septembre. Les mots de Maxime Saada, le président de Canal+, dans l'interview accordée au Figaro mardi dernier, étaient très durs. Il disait notamment que depuis la victoire de Mediapro lors du dernier appel d'offres en 2018, la confiance avec les dirigeants du foot français était rompue, que Canal+ n'avait pas été traité correctement et qu'il n'oubliait pas. Ces paroles vous ont surpris? Il vise les présidents de club, donc il vous vise, vous, entre autres Jean-Pierre Caillot, notamment eu égard à vos responsabilités au sein de la Ligue et des clubs, pardon.
Oui, alors je pense que je ne suis pas spécialement visé, d'autant que je n'étais pas à cette fonction au moment. Mais j'assume pleinement le fait que nous avons fait un appel d'offres. Il faut quand même rappeler, parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses là-dessus, le dernier appel d'offres s'était terminé aux alentours, à 816 millions d'euros. Cette fois-ci, on imaginait aller aux alentours du milliard, et il se trouve que l'arrivée de Mediapro a fait monter la somme à 1,2 milliard. Alors c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut quand même aussi signaler pour vos auditeurs que cette somme ne va pas totalement au football, elle va au monde amateur ou à tous les sports. Donc voilà, quand la bulle gonfle, c'est mieux pour tout le monde.
Ouais. Le journal Le Monde rapporte les propos de Vincent Bolloré, l'actionnaire majoritaire du groupe Canal+, qui a été visiblement vexé de l'épisode Mediapro. Il a dit « Je veux les voir à genoux dans une mare de sang », aurait-il dit, des présidents de Ligue 1. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ces mots ?
Je n'ai pas entendu devant moi. Après, Monsieur Bolloré est un grand chef d'entreprise. C'est pas la première fois sans doute qu'il perdait un appel d'offres. Qu'il y ait un peu de rancœur, c'est pas illogique. Je peux comprendre leur position. Il faut se rappeler quand même que c'est le diffuseur historique. Mmh. Le football français ces 10 dernières années s'est énormément développé avec comme partenaire, notamment Canal+, et que ce qui s'est passé au dernier appel d'offres pouvait être mal vécu, je le comprends tout à fait, d'autant qu'à l'époque, j'imagine que, sachant l'importance du produit football et du produit premium, ils imaginaient un effondrement de leurs abonnés. Donc qu'ils aient eu quelques rancœurs ou qu'ils en aient encore, je trouve ça légitime, mais comme je le disais précédemment, il faut avoir du bon sens dans toutes les négociations. Il n'est ni de l'intérêt du football français, ni de l'intérêt de Canal+, que nous ne trouvions pas une issue.
Du bon sens, mais vous constatez que Canal+, est en position de force, non ?
Bah, évidemment, ça, tout le monde le constate.
Donc, je veux dire par là que vous pouvez ne pas sortir excessivement gagnant de cette négociation.
Alors, je pense que de toute façon, il faut pas regarder si on va sortir gagnant. Il faut, pour être très clair et très factuel,
sauver les meubles.
Limiter et sauver les meubles, et c'est pour ça que, en parallèle des droits télé, on est en train d'essayer de réfléchir à moyen terme à réinventer notre produit et aussi à regarder à court terme comment on peut jouer sur nos charges.
Voilà, à court terme, justement, pardon de cette question triviale, c'est combien sauver les meubles pour vous ?
Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a 41% de nos droits qui sont sécurisés.
Donc, ça fait combien la somme ? Vous attendez combien de Canal+
Aujourd'hui, pour cette année, on a 683 millions d'euros de sécurisés. Nos analyses économiques laissent penser qu'il faudrait arriver au minimum à être à 800 millions pour cette année. Donc je pense que l'effort à réaliser par un diffuseur n'est pas non plus totalement impossible à faire quand on sait les sommes et les enjeux qui sont mis en place.
Est-ce que ces enjeux ne dépassent pas le football ? On va y revenir, mais je pose la question parce que certains disent que Canal se sert du sort de la Ligue 1 comme moyen de pression sur d'autres dossiers. La chronologie des médias, par exemple, Canal voudrait pouvoir réduire le délai de diffusion des films de cinéma à la télévision, c'est un peu technique, et la TVA, Canal voudrait une TVA à 5,5% et non plus à 10%. Est-ce que vous avez le sentiment que Canal, d'une certaine manière, vous prend en otage dans des dossiers qui ne sont pas les vôtres ?
Et vous savez, moi, quand j'ai pris la présidence du Stade de Reims, il y a presque une vingtaine d'années, je l'ai pris en étant un président passionné et avec une vision du foot qui était celle de tous les passionnés. J'ai, au fil du temps, découvert que le foot était beaucoup plus qu'un sport, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Et donc, aujourd'hui, oui, évidemment, je pense que la situation étant ce qu'elle est, la période étant ce qu'elle est, parce que non seulement on a un diffuseur qui nous fait défaut, mais je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, on a zéro en billetterie, on a zéro en hospitalité. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, la période n'est quand même pas favorable pour pouvoir faire des négociations. Et évidemment, je pense que dans toutes ces grandes négociations qui sont dans un monde qui a tendance à dépasser le commun des mortels, quand vous avez des arguments ou des faits à faire jouer, y compris politiquement, vous vous en privez pas. Après, c'est un contrat privé. Moi, j'ai rencontré le président Macron il y a quelques temps, qui nous a dit qu'il ne nous laisserait pas tomber, mais autant il peut peut-être intervenir sur un certain nombre de points, autant il n'a pas à intervenir dans ce genre de dossier, parce que c'est du privé.
Je vous donne raison, c'est plus qu'un sport. La preuve, on parle de football ici, dans Culture Média. Les audiences de la Ligue 1 sur Téléfoot n'ont pas été bonnes, le mot est faible. Audience décevante également sur Canal+. Pardon de cette question, est-ce que la valeur du foot français n'a pas diminué depuis le début de la saison ? Et avec elle, est-ce que l'image du foot français n'a pas été abîmée ?
Alors j'ai un contre-exemple à vous donner qui remonte à la semaine dernière, vous avez sans doute dû en parler en audience, c'est le trophée des champions.
Oui évidemment, parce que c'était le classico, c'était OM Marseille.
C'est quand même pas aussi important qu'un derby ou qu'un classico justement comme vous dites en championnat. Voilà, et malgré tout, il y a une audience, à ce que je sache, d'un million trois. Donc c'est quand même des très bonnes endurances. Non, le foot, je pense qu'il est comme beaucoup de choses dans cette société. En ce moment, il est en grande difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le produit, à partir du moment où il n'y a pas l'ambiance des stades, où il n'y a pas de spectateurs, ça n'a pas le même rendu. Mais croyez-moi, même si les Français, par moment, peuvent se désintéresser ou en avoir un peu marre parce que vous avez des matchs tous les jours, tous les soirs à la télé, ça reste et de loin le sport numéro un.
En quelques mots, ça fait près de 30 ans que vous êtes dans le milieu du football avec Reims, vous connaissez bien tous les journalistes qui suivent la Ligue 1. Qu'avez-vous pensé du licenciement du commentateur vedette de Canal+, Stéphane Guy ?
J'ai le droit de jouer un joker parce que j'essaye de pas me fâcher avec les gens de Canal dans mes propos, mais j'aime beaucoup ce commentateur, donc je suis obligé de reconnaître. J'ai pas à intervenir sur les décisions qui ont été prises, mais j'aimais bien l'individu et j'avais d'excellentes relations avec lui, donc ça m'a peiné pour lui. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message dans ce sens.
Merci beaucoup Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, président du Collège de Ligue 1 au sein de la Ligue de football professionnel. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec le journaliste et présentateur Benjamin Petrovert. Il va nous parler des grandes gueules Moyen-Orient, la nouvelle émission d'opinion qu'il anime, Opinion et débat, sur la chaîne israélienne d'Info Continue, I24 News. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Benjamin Petrovert.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Plaisir de vous entendre, vous êtes journaliste, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, vous avez animé pendant 5 ans les petits matins d'Europe 1, le 5-7, puis la matinale du week-end, maintenant vous êtes à la télévision en Israël, après être passé par iTélé, vous êtes présentateur sur la chaîne I24 News, chaîne israélienne d'info continue, et vous avez déboulé depuis lundi avec une toute nouvelle émission, Les Grandes Gueules Moyen-Orient, c'est du lundi au jeudi à 20h, heure de Paris, je dis ça parce qu'on peut le voir évidemment sur les réseaux câblés et ceux qui peuvent ici en France, c'est évidemment inspiré de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC Story et également en radio. C'est quoi le principe de l'émission ?
Alors, Les Grandes Gueules, c'est une émission de débat d'opinion partagée entre Paris et Tel Aviv, mais également New York, Dubaï, on va même aller jusqu'au Maroc et autour du monde, pour discuter des grands sujets. J'ai pas envie de dire géopolitique parce que ça peut être rebutant, mais en tout cas des sujets que nous partageons et qui nous lient de part et d'autre de la Méditerranée et de part et d'autre des continents.
En quoi ça consiste, l'adaptation d'un format, à part une partie du titre, le terme « Grande Gueule », quelle différence avec une autre émission de débat ? Pourquoi « Grande Gueule » ?
Alors, La particularité de ces grandes gueules, c'est qu'elle correspond, ce titre correspond très bien à l'ADN d'I24 News et à ce que nous faisons ici. Si Philippe, demain vous prenez l'avion et vous venez à Tel Aviv, vous remarquerez que dès que vous atterrissez, vous prenez le taxi va commencer à débattre avec vous, à gueuler entre guillemets avec vous, et si vous refusez de débattre avec lui, il va débattre avec son Waze pour trouver le chemin pour aller jusqu'à votre hôtel. Donc ça correspond parfaitement à ce que nous vivons ici au quotidien. Le Proche-Orient est bouillonnant, surtout Israël est un pays bouillonnant, où le débat est quotidien et où quasiment tous les citoyens sont des grandes gueules.
Voilà. Et puis, ce que vous dites, débattre avec le chauffeur de taxi, je ne parle pas hébreu, mais 4% de la population parle français en Israël. Alors, il faut aussi dire que les deux chaînes I24 News et RMC Story ont le même patron, Patrick Drahil, président d'Altice, groupe qui chapeaute BFM et RMC, mais également SFR, la téléphonie mobile. Officiellement, I24 News, je précise, a été racheté par Altice USA en janvier 2018. Qui sont les intervenants?
Alors, les intervenants, ce sont des grandes gueules qui sont à Tel Aviv pour moitié et à Paris pour l'autre moitié. À Paris, on peut retrouver des personnalités comme Laurent Geoffrin, Elisabeth Lévy, Abnou Shalmani. On a eu la semaine dernière Jean-Pierre Elkabbach, une voix mythique d'Europe 1 qui nous a fait l'amitié de venir dès la première semaine et qui reviendra, j'espère. Nous avons aussi de l'autre côté de la Méditerranée, ici en Israël, des personnalités du monde politique, ce sont des anciens ambassadeurs d'Israël en France, je pense à Avi Pasner ou Daniel Scheck, mais également parce qu'on utilise également l'ADN des grandes gueules, des gens de la vie quotidienne, parce que c'est ça aussi les grandes gueules, ce sont des gens de la société civile qui viennent au quotidien nous raconter ce qu'ils vivent. Et ça, c'est ce que nous intégrons également dans nos débats ici, dans les grandes gueules Moyen-Orient.
Il y a également des comédiens français, j'ai vu passer les noms de Francis Huster ou Véronique Jeunesse. Alors j'ai regardé la dernière émission, c'est-à-dire celle de jeudi, vous êtes du lundi au jeudi, c'était le 14 janvier. Il y avait d'abord un débat sur la politique de Netanyahou, sa main tendue aux Émirats Arabes Unis. Il y avait les pour, il y avait les contre, normal dans ce genre d'émission. Mais il y avait également en duplex, par Skype, un Palestinien qui intervient. Malheureusement, au lieu de traiter le sujet, il voulait revenir sur les accords d'Oslo, puis sur la création de l'État d'Israël il y a un siècle. Vous avez eu beaucoup de travail pour le recadrer. Est-ce que c'était une exception ou est-ce que vous donnez souvent la voix à des représentants palestiniens ?
Alors, je vous remercie, Philippe, de souligner ça, parce que oui, on donne souvent la voix aux représentants palestiniens, et pas seulement dans les grandes gueules Moyen-Orient. Ce que vous avez vu la semaine dernière, c'est une réalité de notre chaîne, je dirais, depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'avant les grandes gueules Moyen-Orient, moi, je présentais une émission qui s'appelait Conversation avec vous, où pendant 3 ans, j'allais de ville en ville à la rencontre des habitants, et on faisait discuter les habitants par ville croisée. On faisait discuter des Palestiniens de Bethléem avec des Israéliens des implantations. On faisait discuter des Arabes israéliens de Jaffa avec d'autres Israéliens qui avaient choisi de vivre à la pointe nord, le Hermon, à la frontière avec la Syrie ou avec le Liban. Depuis la naissance d'I24, en fait, on fait dialoguer Israéliens et Palestiniens. Je vais même vous dire plus, je pense qu'on est à ce jour la seule chaîne francophone au monde à proposer au quotidien des débats où Israéliens, Palestiniens, également Arabes israéliens, parce que c'est une population qu'on oublie trop souvent, qui discutent ensemble autour d'une même table. Je crois qu'aucune autre chaîne ne le fait aujourd'hui.
Alors, deuxième sujet traité ce soir-là, c'était jeudi dernier, c'était la condamnation par la justice française d'un livreur Deliveroo de Strasbourg qui refusait de livrer des Juifs. Il est passé en comparution immédiate. Sanction 4 mois de prison ferme. On va vous entendre donner l'info.
On va, si vous voulez bien, parler maintenant de l'info du soir. La condamnation de ce livreur Deliveroo qui, à Strasbourg, refusait de livrer des Juifs. Et la justice n'a pas attendu et ce livreur est passé en comparution immédiate. Et voici la sanction, 4 mois de prison ferme. Il devra quitter le territoire une fois la peine exécutée et ne pourra pas revenir en France avant un délai de 3 ans. Je précise également que le personnage en question était un Algérien de 19 ans en situation irrégulière.
Alors, ce qui pour vous, Benjamin Petrovert, était l'info du soir de ce 14 janvier, n'était pas dans les JT de TF1 ni dans les JT de France 2, même pas une brève. Vous donnez également cette information, le fait qu'il était algérien. Même sur le site de BFM, il est dit qu'il était étranger et qu'il serait reconduit à la frontière, mais ne donnait pas le pays, ne donnait pas la nationalité. Avec cette émission, au-delà de l'exemple de ce livreur, est-ce que vous avez l'impression ou la volonté de briser des tabous ?
On n'est pas là pour briser des tabous, Philippe. On est simplement là pour évoquer les sujets qui concernent notre public. Je rappelle que les gens qui regardent i24 News sont des gens qui sont intéressés par les problématiques du Proche-Orient, conflit israélo-palestinien, mais pas que, parce qu'on est au cœur de ce volcan en ébullition. Vous savez, on a à la frontière nord le Liban avec.
C'était pas le sens. J'ai mal posé ma question.
Cet été.
Benjamin, pardonnez-moi, j'ai mal posé ma question. Le sens de ma question, c'était le fait que ce livreur ait été algérien. Je ne l'avais pas entendu avant de vous entendre sur i24 News. Comme si les chaînes françaises avaient une pudeur à annoncer la nationalité d'une personne condamnée par la justice.
Alors, moi, je suis pas là pour, si vous voulez, Philippe, pour donner des bons et des mauvais points aux autres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, nous, on a suivi le dossier sur i24 News depuis le premier jour, depuis l'annonce des faits. Donc, nous avons eu très en amont toutes les infos autour de ce dossier et nous avons suivi l'affaire pas à pas et jour après jour. Alors, quand j'ai annoncé l'info à l'antenne, c'est parce que je l'avais de sources très proches du dossier. Je ne sais pas, vous m'apprenez que les autres chaînes n'ont pas cité exactement le pédigré de ce livreur Deliveroo, mais en tout cas, moi, je crois que c'était de notre sens à nous, et dans l'intérêt également de l'émission et du débat, d'expliquer qui était cette personne.
Moi, j'ai lu des papiers qui disaient qu'il avait été renvoyé dans son pays, avec cette pudeur de ne pas dire quel était le pays en question. Vous restez avec nous, Benjamin Petrovert. On continue de parler des grandes gueules au Moyen-Orient sur la chaîne israélienne i24 News. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Benjamin Petrovert, présentateur des Grandes Gueules Moyen-Orient, c'est sur i24 News, chaîne d'info continue israélienne, mais qu'on peut voir dans le monde entier. On en parlera. Le troisième sujet, je fais la recension de l'émission, la dernière que vous avez faite, c'était jeudi dernier. Vous avez parlé du Covid, mais du point de vue de la France. Ironie, en France, on cite comme exemple dans la réussite de la vaccination Israël. Au 14 janvier, ce chiffre est assez hallucinant, il y avait déjà 2 millions de personnes vaccinées en Israël, avec évidemment beaucoup moins de médecins qu'en France, alors qu'en France, on en était hier à seulement 420 000. 2 millions le 14, 420 000 hier en France. Est-ce que c'est Israël qui est un État modeste ou est-ce que c'est la France qui est à la ramasse?
Bonne question, Philippe.
État modèle, pardon.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont deux approches différentes du Covid. Vous savez qu'Israël est un pays qui a connu beaucoup de guerres en 72 ans seulement d'existence, qui est un tout petit pays. Israël est grand comme 2 fois la Corse, 9 millions d'habitants. C'est un pays minuscule, avec une seule porte d'entrée qui est l'aéroport Ben Gurion. Donc je serais presque tenté de vous dire, c'est une question de vie ou de mort ici, la gestion du Covid-19. Parce que si jamais l'épidémie devient grave, c'est tout un pays qui rit la carte. Hein, pardon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. ça. Donc ça a été géré comme une guerre. Emmanuel Macron, je me souviens, avait dit en France, nous partons en guerre. Netanyahou n'a pas dit nous partons en guerre, mais il l'a fait. Voilà, ouais. S'il fallait peut-être faire une comparaison. Et ça a été une attaque extrêmement rapide, si vous vous souvenez. Moi, je me souviens qu'au mois de mars, j'étais déjà interrogé par nos confrères de BFM, qui étaient encore à discuter à l'antenne sur comment se procurer des masques, ou même comment se fabriquer chacun à la maison un masque. Moi, à Tel Aviv, au supermarché du coin, j'avais déjà des caisses entières avec des masques pour toute la population. Et par la suite, pour les vaccins, ça a été la même chose. Les caisses d'assurance maladie ici sont équipées en stock de vaccins, suffisamment en tout cas pour lancer une campagne massive de vaccination. Vous avez rappelé ce chiffre, plus de 2 millions d'Israéliens vaccinés, et on est déjà à plus de 200 000 Israéliens qui ont reçu également leur deuxième dose.
Voilà.
C'est-à-dire que d'ici une quinzaine de jours, on a déjà une partie de la population qui pourra peut-être reprendre une vie normale.
Et aujourd'hui, l'info que j'ai apprise grâce à vous, à partir d'aujourd'hui, les plus de 45 ans peuvent se faire vacciner en Israël. Dans l'émission, il y a un des intervenants parisiens, c'est Franz-Olivier Gisbert qui est là, il parle depuis Paris, il nous explique que le gouvernement français est nul, ça c'est du Gisbert. Vous donnez ensuite la parole à Christian Mallard, journaliste, lui également aussi dans votre studio parisien. Il approuve les propos de Gisbert, oui, le gouvernement est nul, mais Christian Mallard veut rajouter quelque chose.
Moi, j'entends des gens qui font partie de la recherche pharmacomédicale depuis des années, depuis 23, 24 ans, qui me disent, alors, ça n'engage qu'eux, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas infectiologue, qui me disent qu'il ne faut surtout pas, aujourd'hui, se faire vacciner, que ce soit avec le vaccin Pfizer ou le, je ne sais plus comment, Moderna, le dernier, parce que ces vaccins ne sont pas fiables encore.
Oulala, attendez.
Oulala, après que tous vos intervenants ont expliqué qu'il fallait absolument se faire vacciner, lui, vous l'avez fait taire. Est-ce que parmi vos intervenants, il y a parfois des complotistes ou perçus comme tels ?
En tout cas, Christian Mallard, que je salue pour son talent et sa connaissance immense en géopolitique, a jeudi soir, à mon sens, oui, été un petit peu trop loin dans ces thèses-là. Et
c'est vrai que dit après l'émission ?
Non, je l'ai dit en direct.
Ouais.
Ça, je pense que le message a été très clair, c'est que je l'ai coupé au moment où il affirme ça. Je pense que c'est aussi notre rôle aujourd'hui d'expliquer ce qui est. Je vous remercie d'avoir passé cet extrait d'émission. Dans cette même semaine, on a eu également des médecins qui étaient en plateau avec nous, que ce soit à Paris ou à Tel Aviv, parce qu'à un moment, on peut pas non plus tout laisser passer et tout laisser dire. Je sais qu'il y a en France un énorme climat de suspicion autour du vaccin, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser passer toutes les rumeurs.
I24 News, c'est une chaîne d'infos en continu israélienne. Elle a été lancée en 2013 par Patrick Drahi comme une alternative à Al Jazeera. Elle émet en trois langues toujours.
Absolument.
Anglais, français, arabe, pourquoi pas en hébreu ?
Franck Melloul est à la manœuvre depuis la naissance de la chaîne. La priorité, vous savez que Franck Melloul, c'est un ancien diplomate, un ancien de France 24 surtout. Donc il a voulu créer l'équivalent ici depuis le port de Jaffa, qui est en fait à Tel Aviv. Et l'idée, c'était d'avoir un rayonnement mondial.
Mais
c'est
une chaîne internationale,
Philippe.
Oui, mais Al Jazeera parle en arabe.
Oui, mais c'est une chaîne internationale. On n'est pas une chaîne israélienne. D'accord. On est aimé dans le monde entier. Notre but, c'est d'arroser le monde entier, pas forcément Israël. Et puis, il y a autre chose, si vous voulez vraiment connaître les coulisses, c'est que le CSA israélien a des règles qui lui sont propres, qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'émettre en hébreu.
Voilà. Et puis, je dois dire que la chaîne a été lancée en 2013. Contrairement à France 24 ou BBC World News, qui sont financés par l'État français ou britannique, c'est une chaîne privée. Et I24 News n'a eu l'autorisation d'émettre sur le territoire israélien qu'au mois d'août 2018. Merci beaucoup, Benjamin Petrobert, d'avoir été avec nous.
Si vous me permettez un dernier mot, Philippe.
Rapide.
Je voudrais remercier Alain Marchal et Olivier Truchot qui nous ont apporté leur bénédiction lors de la naissance des grandes gueules Moyen-Orient, nous donnant beaucoup de conseils et j'espère que ça nous portera bonheur. Voilà. Merci pour votre invitation et vous êtes le bienvenu aussi, Philippe, dans les
grandes gueules. Merci beaucoup, c'était la bénédiction au sujet de la bénédiction. Benjamin Petrobert qui présente, je le rappelle, les grandes gueules Moyen-Orient, c'est sur I24 News, vous pouvez voir ça du lundi, donc ce soir à 20h, heure de Paris. Merci beaucoup, Benjamin. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain à base d'indiscrétion politique. Et on va rester dans le secret puisque Bertrand Chameroy, pour son écran de veille, s'est penché sur la chanson secrète de TF1. Notre invité, le journaliste et romancier Eric Fotorino, pour son nouveau roman Marina A, consacré à une performeuse de l'extrême, performeuse artistique, Marina Abramović. Et puis dans les indispensables, deux super-héroïnes et la série phénomène WandaVision. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.